VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes l'Amérique et voix avec John Lindon, mais tout d'abord les nouvelles. Au Niger, le Premier ministre Brigui Rafini a reçu ce lundi une délégation de l'opposition politique qui rejette les résultats du scrutin présidentiel du 20 mars ayant conduit à la réélection pour 5 ans du président sortant Mahamadou Issoufou. À la réunion, Brigui Rafini a remis à la délégation un message officiel d'invitation du président Issoufou à l'opposition, lui demandant de participer à un gouvernement d'union nationale. Plus de détails avec notre correspondant au Niger, Abdoul Razak Idrissa.
La rencontre a duré une quarantaine de minutes, a indiqué à VOA Afrique un des responsables de l'opposition qui y a pris part. Il s'est principalement agi pour le Premier ministre Brigui Rafini de transmettre à la délégation de la COPA 2016 un message du président Issoufou Mahamadou dans lequel il confirme son appel lancé au lendemain de sa réélection à vouloir former un gouvernement d'union nationale. En retour, les délégués de l'opposition ont remis pour le président de la République au Premier ministre un message contenant tous les griefs qu'ils ont formulés en lien avec l'organisation des élections, particulièrement le second tour de la présidentielle, dont ils disent ne pas reconnaître les résultats et toutes les institutions qui en seront issues. Nous examinerons ensemble avec nos structures ce message du président Issoufou en espérant qu'il fasse de même pour le nôtre, à laisser entendre ce responsable. L'opposition politique nigérienne a annoncé qu'à partir du 1er avril, date de la fin du mandat du président Issoufou Mahamadou, le Niger n'aura plus de président légitime et qu'elle appellera de ce fait à une résistance citoyenne. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Dans le nord du Mali, arrestation de 2 suspects en rapport avec l'attaque du Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui avait fait 19 morts, opération revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le premier suspect, Ibrahim Ould Mohamed, un arabe malien, a été appréhendé à Goundam près de Tombouctou et il serait proche de Kunta Dala, le cerveau présumé de l'attaque. Le second suspect, Midi Ag Sodak Diko, un Touareg malien, a été détenu à Gossi, au sud de Gao. Plus de détails avec Shana Takio, directeur du journal Le 22 septembre. Bamako, au micro d'Idriss Fall.
Le premier est un arabe bontain, le second est un tamashek bontain également. Les deux sont des Maliens, mais jusqu'à leur arrestation, ils ne sont pas des gens très connus, ni dans les mouvements armés, ni au sein des populations.
Comment est-ce qu'on est arrivé à faire leur lien avec les attentats de Grand Bassam?
C'est la force Barkhane qui a pu détecter des communications de ces deux personnes arrêtées, lesquelles étaient en lien, s'ils ne font pas partie des exécutants des attentats de Grand Bassam. Ce qui est sûr, il y a eu des communications qui les compromettent. Ils sont considérés comme suspects, arrêtés. Les enquêtes vont se poursuivre. Celles-ci vont déterminer le rôle en tant qu'acteurs principaux ou complices dans les attaques terroristes de Grand Bassam. Ce qui est sûr, il y a des éléments qui les comprennent. Et c'est grâce aux forces Barkhane que ces éléments-là ont pu être retrouvés.
Shanata Kiyo du journal Le 22 septembre à Bamako, au Mali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Centrafrique, le président élu Faustin Archange Touadéra sera investi mercredi à Bangui, dernier chef du gouvernement de l'ex-président François Bozizé. Ce professeur de mathématiques hérite à 58 ans d'un très lourd passif économique, sécuritaire et social. Michel Joseph.
Faustin Archange Touadéra sera immédiatement confronté à l'urgence de redresser un pays en ruine et profondément divisé par 3 années de violence intercommunautaire. Formellement, la transition n'est cependant pas totalement achevée. Les Centrafricains ont certes adopté par référendum la constitution de la 6e République et élu leur président, mais le Parlement n'est toujours pas en place. Le second tour des législatives, plusieurs fois reporté, est désormais prévu jeudi, le lendemain de l'investiture du chef de l'État. La Centrafrique, un des pays les plus pauvres de la planète, malgré son potentiel agricole et minier, est resté coupé un moment de ses recettes du fait de sa mise en coupe réglée par les groupes armés qui se sont érigés en douaniers cadres des impôts. Dès l'annonce de son élection, M. Touadéra avait assuré mesurer le poids de la charge qui l'attend.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Lyndon, Joselle à la mise en onde assistée de Fred. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Le président Barack Obama a donc bouclé cette semaine sa visite à Cuba. Une visite historique puisque les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 1961 et aucun président américain en exercice n'avait foulé le sol de la Havane depuis 1928. Au menu des entretiens durant cette visite figurait en bonne place la normalisation des rapports économiques et des relations entre les États-Unis et Cuba, mais aussi et surtout les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. Dans cette édition de l'Amérique et vous, nous parlons donc de ce rétablissement graduel des relations entre les États-Unis et Cuba et surtout de l'intérêt qu'il a pour l'Afrique, si intérêt il y a, ou tout au moins des leçons qu'on peut en tirer du point de vue africain. Évidemment, nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 34 40. Alors, pour nous accompagner au cours de cette édition, nous avons depuis Yaoundé au Cameroun, Célestin Bédigui. Il est économiste et homme politique, vice-président de l'UNDP. Il vit entre Washington et Yaoundé. Célestin Bédigui, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Vaudot.
Merci, merci bien de nous rejoindre sur cette émission. Donc, également invité dans cette édition... Jean-Jacques Kurlianski, oui, il est à Paris, chercheur à l'IRIS. Jean-Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, merci d'être avec nous aussi. Également à Paris, nous avons Geneviève Garicos, elle est présidente d'Amnesty International France. Geneviève, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc, on va commencer par Célestin Bédigui. Qu'est-ce que vous retenez comme leçon de ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba?
Je pense que l'influence qu'a l'Amérique, ou tout au moins qu'ont les États-Unis sur les pays africains, notamment les pays africains francophones, veut que toute relation crispée entre cette grande puissance et notre pays tempère quelque peu les relations que les pays africains peuvent avoir vis-à-vis de cet autre pays-là. Et une décrispation qui intervient entre les États-Unis et Cuba va forcément se traduire par un réchauffement, ou tout au moins il y aura plus d'allant dans la relation entre Cuba et les nations africaines, les pays africains. Parce qu'il faut bien le dire, la visibilité de Cuba était supérieure à celle des autres pays d'Amérique latine depuis des décennies, notamment avec l'intervention de ces pays dans le conflit qui opposait à l'époque l'Angola et l'Afrique du Sud. Mmh. Elle s'est tempérée, elle s'est atténuée avec le temps au point où on se demandait où est-ce qu'on en était. Et je crois que, et je pense que c'est le point de vue également d'une large partie de l'opinion ici chez nous, que la décrispation qui est entre les États et qui intervient aujourd'hui par le haut entre les États-Unis et Cuba ouvre une allée beaucoup plus grande pour que les pays africains soient plus à l'aise pour normaliser ou renforcer leurs relations de coopération avec Cuba.
Voilà. Jean-Jacques, les deux pays ont réouvert leurs ambassades le 20 juillet dernier. Qu'est-ce que cela va concrètement apporter aux populations ?